Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité faite de jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Ce soir justement, on vous explique le pape tel que vous ne le connaissez pas. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast.
J'ai des amis qui m'aident. Ils connaissent ma vie d'homme normal. Non pas que je sois un homme normal, non. J'ai mes propres anomalies. Mais comme un homme ordinaire qui a des amis. Je les écoute, je leur parle de mes propres histoires. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé vivre dans l'appartement papal. Parce que les papes qui étaient là avant étaient des saints. Et moi, non, je ne suis pas un saint. J'ai besoin de relations humaines.
À l'Élysée, on connaissait le président normal. Au Vatican, il y a le pape normal. Mais qu'en est-il réellement? Quelle est la vie quotidienne du Saint-Père? Les habitudes, les passions de sa sainteté, ses obligations? Et se soumet-il à toutes? Qui est vraiment l'homme qui se cache derrière les ors du Saint-Siège? Réponse ce soir avec notre invité. Caroline Pigaudy, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain et vous êtes vaticaniste, Caroline. Et vous êtes l'autrice d'un ouvrage. Alors écoutez, je ne sais pas combien il pèse, mais il doit être tout aussi passionnant qu'il n'est fourni. Ça s'appelle « Pourquoi eux ?» aux éditions Plon. Ils ont fait notre époque, interview et rencontre pour Paris Match. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Et vous avez également préfacé le livre « Pape François, parole en liberté » chez le même éditeur. Ce même pape, justement, dont on va parler ce soir, le pape François, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Vivre mon histoire à travers la grande histoire ». Est-ce qu'on y apprend des choses que nous ne savions pas encore? Nous, je ne parle pas de vous, parce que vous, le pape François, vous le connaissez. Mais nous, est-ce qu'on apprend des choses dans ce livre?
Oui, je crois que c'est très intéressant, parce qu'en fait, il revient beaucoup sur sa jeunesse. Tout le monde la connaît, sa jeunesse, parce qu'il a été élu pape, il y a eu des papiers partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il a fait ce choix-là. Il aurait pu parler 36 choses, ça fait plus de 10 ans qu'il est pape. Et au fond, il est complètement marqué et conditionné par sa jeunesse. Il faut savoir qu'il est argentin, qu'il est fils d'émigrés piémontais, qu'il a quand même une espèce de nostalgie de son pays et qu'il est jésuite. Il appartient à l'ordre des jésuites. Et ça, c'est essentiel parce que les jésuites, ça a donné qui? Ça a donné le général de Gaulle, c'était pas en soutane, néanmoins, il avait installé une chapelle à l'Élysée. Ça a donné l'amiral de Gaulle qui est mort il y a quelques semaines, à peine, deux semaines. Et ça a donné le président Macron qui est ancien élève des jésuites et son épouse, Brigitte Macron, qui était professeure chez les jésuites. Donc tout ça, ça fait des gens très structurés, qui ont le sens non seulement de l'ambition, mais qui ont absolument le sens du pouvoir.
Et alors justement, il a le sens du pouvoir, ce pape ?
Oui, il sait instinctivement où est le pouvoir, comment ça se passe. Et puis, il a été dans un pays compliqué parce que l'Argentine, quand même, a eu des mouvements politiques divers et variés. Donc, il connaît tout ça très bien. Il a notamment, ce qu'on n'y pense jamais, enseigné la psychologie. Et au fond, quand on est devant lui, il fait très très rapidement une petite analyse. Il y a l'instinctif et la psychologie. Et on lui plaît ou on lui plaît pas. Et c'est insondable, mais c'est comme ça que ça se passe.
Vous êtes dans les petits papiers du pape François?
Moi, je crois qu'il m'aime bien, mais moi, il m'aime bien parce
mais
que...
ils vous ont tous bien aimé, moi, je trouve. Non, vous en avez connu combien,
trois,
des papes?
Bah
oui,
alors,
c'est ça. Jean-Paul II, Benoît XVI,
oui, il m'aimait beaucoup,
celui-ci.
Mais il aimait aussi Paris Match. Pour lui, je représentais Paris Match, qui était le journal qu'il lisait dans l'église du silence en Pologne. Donc, il y a une partie, c'était moi, mais soyez honnête, le match le faisait rêver. Le pape
Benoît XVI,
il m'aimait bien parce que j'étais respectueuse et plutôt aimable avec lui. Il n'y avait pas tellement de femmes à l'époque, mais c'était pas du tout. Moi, je suis pas une intellectuelle et je savais pas qu'elle était le saint qui avait traversé le Vatican à genoux au XIIe siècle.
Ouais.
Donc, je lui parlais pas de ces sujets-là. Mais comme on était peu de femmes, celles qui étaient là et qui étaient souriantes, il était très charmant avec elles. Et puis avec lui, j'ai eu une anecdote assez extraordinaire. Un jour, il était place Saint-Pierre. Je lui cours derrière. Il était pas pape. Il était cardinal à l'époque. Et je lui dis, Éminence, j'aimerais beaucoup vous inviter à déjeuner, vous interviewer. Il dit, écoutez, là, je suis un peu pressé, on m'attend, on se parlera une autre fois. Il regarde sa montre et il avait une petite montre de femme, ce qui était un peu frappant. Je lui mets très, Monseigneur, Éminence, vous avez une montre de femme? Et là, il a eu les larmes aux yeux, il m'a regardé, il a dit, écoutez, c'est la montre de ma sœur Marie qui est morte il n'y a pas longtemps et je l'ai toujours au poignet. Je me suis dit, il ne cache pas ses émotions.
Oui.
Voilà, il y a ça aussi.
Et là,
aussi.
Vous parliez de Benoît XVI ou
ça,
vous parliez de
Benoît
François
XVI.
Et François, lui, qu'est-ce qu'il a de singulier par rapport aux autres?
Ah ben François, il a cette chose amusante, c'est qu'il peut se permettre, il est comme il est, c'est-à-dire il peut être absolument charmant, il peut être extrêmement désagréable, il peut marmonner. Et moi j'ai eu une histoire il n'y a pas très longtemps assez amusante. Il nous avait raconté à une journaliste italienne qu'il aime bien et à moi, il dit toujours qu'on est ses préférés, Franca Giansoldati et moi. Et il nous avait dit que quand il avait mal au dos, il prenait un doigt de cognac arménien. Ça me semblait une chose absolument atroce. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Mais je lui ai dit, écoutez, très Saint-Père, je vais vous donner du cognac français, c'est quand même mieux. Là-dessus, je vais interviewer Bernard Arnault, je lui raconte cette histoire. Et je lui dis, ça serait formidable, vous avez un cognac qui s'appelle Paradis. Peut-être que vous pourriez m'en donner une bouteille pour le pape. Alors, Bernard Arnault fait graver une bouteille très chic avec écrit à sa sainteté le pape François. Je me voilà parti pour Rome avec ma bouteille et j'essaye de monter dans l'avion avec, mais on ne peut pas monter dans l'avion du pape avec une bouteille, vous savez, c'est les règles. Donc, la bouteille reste auprès des gens d'Alitalia, la direction d'Alitalia. Je suis ma bouteille et je raconte ça au pape dans l'avion. Je dis très Saint-Père, j'ai pas pu vous apporter cette bouteille parce qu'on m'a pas laissé monter dans l'avion avec. Il me dit, écoute, tu prends la bouteille, tu la bois à ma santé, quelques amis. Je dis, mais là, je serai ivre-caisse parce que quand même, la bouteille est très importante.
Et donc, vous avez une bouteille de cognac gravée à sa sainteté donné par Bernard Arnault, absolument. Mais c'est vous qui en avez hérité, si je puis dire.
Oui, mais je ne l'ai pas bu, parce que pour moi, c'est comme s'il y avait de l'eau sainte.
C'est collector, mais voilà, c'est ça.
Mais c'est absolument comme si c'était de l'eau bénite.
Et Caroline Pigozzi, vous venez de dire, bah voilà, quand je suis montée dans l'avion du pape, c'est-à-dire que quand vous voyagez, que vous allez lui rendre visite, par exemple, vous êtes dans l'avion
On est dans son avion, on est une 50 journalistes dans le monde. Il y en a de... Enfin, on est très peu de Français, il y a 50 pour la Terre entière. C'est une sélection souvent un peu compliquée et on voyage avec lui, ce qui veut dire que, par exemple, on est toujours habillé de noir. Vous voyez, il n'est pas question de s'habiller dans les couleurs jaune et blanc du Vatican ou de se mettre une chemise rose. Enfin, c'est impensable.
Pourquoi ? Pourquoi c'est impensable de mettre de la couleur ?
C'est la règle absolue, c'est une règle
de sobriété,
de respect. Il y a une tenue, vraiment, il faut faire très attention. Une fois d'ailleurs, quand on était au Canada, quand on est allé au pôle Nord, on a voyagé, il y avait un berger malinois. Moi, je suis folle de chiens. Et donc, le berger était avec nous, il y avait une bonne sœur avec le berger malinois. Et c'était très amusant. Et donc, on n'avait pas le droit de le photographier parce qu'on n'a pas le droit de photographier les chiens de la police. Mais je l'avais quand même photographié parce que je ne le savais pas. Mais quand on voyage avec le pape, la chose, c'est qu'on ne peut jamais dormir en réalité, même si le voyage est très long, parce qu'on ne sait jamais à quel moment il va venir nous voir. Donc, l'idée qu'on soit avachi, un peu endormi,
voilà,
c'est pas
préciser,
terrible.
C'est que vous êtes derrière, si
alors,
je puis dire.
Il y a trois classes, trois sections. Il y a lui qui est devant, mais qui est dans une place qui, je dirais, c'est pas de la business, c'est de la middle class. Enfin, classe entre les deux, c'est pas extraordinaire. C'est qu'il a son petit bouquet de fleurs, parce que quand il part avec un bouquet de fleurs.
Pourquoi faire ?
Il va à Sainte-Marie-Majeure déposer des fleurs à l'église basilique Sainte-Marie-Majeure pour être sûr pour prier la Vierge pour que le voyage se passe bien.
Ça, c'est donc à Rome.
À Rome. Il monte dans l'avion, on lui donne un bouquet de fleurs. Il a son petit bouquet de fleurs et puis une Vierge devant sa place, la Vierge de Luján, la Vierge argentine, une reproduction de la Vierge argentine. Et quand il repart, il part avec son petit bouquet de fleurs. Il est comme Mary Poppins s'accrochait à son parapluie. Et il va le déposer à Sainte-Marie-Majeure. Donc, ça fout un bordel terrible parce que la circulation, normalement, il doit aller directement au Vatican, mais ça bloque la circulation dans Rome à Sainte-Marie-Majeure. En plus, la police italienne est très énervée parce que ses prédécesseurs prenaient l'hélicoptère, partaient de l'aéroport de Rome en hélicoptère, tandis que lui n'aime pas l'hélicoptère. Je crois qu'il a même un peu peur. Ce qui fait qu'il rentre en voiture, ça bloque un peu l'autoroute parce que tant qu'il y a le pape qui
passe... Vous imaginez le pape à Paris, là, en ce moment, ce serait quelque chose.
Ça serait épouvantable.
On va se retrouver dans un instant parce que vous êtes avec nous.
Il sera en montgolfière.
Il sera en montgolfière. Mais vous savez qu'on y pense à la montgolfière en ce moment quand on circule dans Paris.
Une montgolfière avec blanche, ça serait très chic.
Une papagolfière. Papagolfière. On se retrouve dans un instant. Vous êtes notre invitée, Caroline Pigozzi. Vous allez nous raconter ce pape. Bah, vous avez déjà commencé, comme on ne le connaît jamais. Une sorte de pape intime parce que le pape reste un être humain, justement. Et moi, j'ai plein de questions à vous poser. À tout de suite sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Notre invitée, c'est Caroline Pigozzi. Caroline qui, dans son rôle de vaticaniste, a rencontré, fréquenté, connu trois papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et donc François, dont on parle ce soir et dont on va vous raconter la vie. Alors non pas, même si on va y revenir, mais l'enfance en Argentine, la vie avant d'être pape, mais aussi cette vie au quotidien, ce pape qu'on ne connaît pas, dont vous me disiez il y a un instant, vous savez qu'il cire ses chaussures. Moi, j'ai plein de questions à vous poser parce qu'on a l'impression qu'un pape, finalement, il est déconnecté du monde réel. On a l'impression qu'il vit dans ses appartements, dans sa papa mobile, dans sa papa golfière, en étant complètement, finalement, hors sol.
Oui.
Mais sa parole, en revanche, elle inonde le monde entier.
Mais...
Et elle a de la valeur, la parole du pape.
Elle a de la valeur, mais il faut justement, à travers les actes quotidiens, on va voir des choses extraordinaires. Vous parliez de voitures quand on a accompagné le pape au Chili. Donc nous, les journalistes, on suivait dans un minibus. Et le pape qui veut toujours une petite voiture, donc il était dans une petite Fiat. Ce qu'il avait fait, ce qu'avait fait l'intelligence du Vatican, c'est qu'ils avaient fait venir son chauffeur quand même, parce qu'il est habitué à le conduire. Et il y avait la police montée, c'était des femmes qui étaient autour de lui. La police montée, tout à coup, il y a un cheval qui a eu peur, qui a fait un écart, et il s'est renversé sur la voiture. Et le pilote, le chauffeur qui avait l'habitude a donné un grand coup de volant. Et autrement, le pape était mort. C'est-à-dire qu'on pense à tout, sauf qu'un cheval peut tomber sur petite Fiat. Le pape est sorti du véhicule et s'est précipité parce que la jeune policière était par terre. Et il a commencé à dire ça va et tout ça. Donc à ce moment-là, toute la police est allée vers lui parce qu'ils ont des réflexes de police américaine. Et ça veut dire que le pape, tout à coup, devenait une cible. Donc ils l'ont ramassé, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont mis dans une voiture. La scène, si on regarde ça sur Internet, c'est incroyable parce qu'on se dit, on pense à tout. Quand il y a une visite officielle d'un pape, mais pas à ça. Donc il y a toujours des imprévus, c'est ça ce qu'on appelle un accident, justement.
C'est un pape super humain, j'ai l'impression, mais on va y revenir. Je me posais une question en préparant cette émission. Jean-Paul II, Benoît XVI, François. Pourquoi il n'a pas de numéro, François ?
Parce que c'est le premier. Il n'avait pas s'appeler François Ier, c'était un peu royaliste.
Alors, on est d'accord, parce qu'en fait, j'ai appris aussi que Jean-Paul II a succédé à Jean-Paul Ier,
oui,
qui avait régné 33 jours.
Oui.
Enfin, régné, pardon de le dire comme
oui,
ça.
Mais non, enfin,
qui avait été pape 33 jours et qui est mort subitement.
Et qui est mort subitement, dont il y a eu toutes les thèses, on a dit que c'était un attentat, enfin qu'il avait été empoisonné, plus exactement. Moi, je crois plutôt, parce que j'ai refait le film de façon très sérieuse, c'est une religieuse qui a découvert qu'il était mort quand elle a frappé le matin parce que le majordome est allé, ça répondait pas, il est allé chercher la bonne sœur et c'est elle qui a ouvert la porte. Et comme c'est tout à fait inconvenant que ça soit une femme qui
ouvre la porte de la chambre du pape.
Voilà, il y a eu une première dépêche et puis une deuxième de l'AFP et de l'ANSA et ça a un peu cafouillé.
D'accord.
Et c'est à ce moment-là que s'est glissée l'idée qu'il aurait été empoisonné.
D'accord, donc il y avait Jean-Paul Ier avant Jean-Paul II, mais il n'y a pas eu non plus 15 Benoît avant Benoît XVI, si ?
Ben si, il y en a eu 15.
Ah ouais ?
Oui, c'est ça.
D'accord, ok. Non,
oui, au fil de l'histoire, il y en a eu 15.
Donc on aura un jour un François II, un François III.
Peut-être, oui.
D'accord, ok, très bien. Bon, maintenant j'ai compris l'histoire du numéro de François. Enfin, de l'absence de numéro de François. Le pape...
Mais à cause de lui, François, parce que dans son cœur, il est un peu franciscain. Il est à moitié
jésuite,
un peu franciscain quand même.
Comment un pape, je le disais, sa parole inonde le monde entier, donc sa parole a du poids. Donc il faut qu'il ait une légitimité à parler de certains sujets. Ce pape... Il ne parle pas que d'homosexualité, il ne parle pas que d'IVG, qui sont des grands sujets, je dirais, qui sont en rapport avec la religion et qui viennent froisser les principes de la religion. Mais il parle aussi de politique, de plein de choses. Comment est-ce qu'il érige sa connaissance pour avoir une telle légitimité dans sa parole ?
Bon, d'abord, il a été un prêtre, un évêque, un cardinal de terrain. Il
ne
restait pas dans son archevêché. Ensuite, les jésuites font 9 ans d'études quand ils entrent au séminaire jésuite. Ils reprennent tout à zéro pendant 9 ans. Donc,
d'accord,
ils ont une formation très particulière. Et ensuite, c'est un pape très politique. Et il faut voir ça aussi dans un pays très politique. Et comme c'était pas du tout quelqu'un qui était enfermé dans son archevêché, il se promenait, il prenait le métro, il allait partout. Et moi, je suis allé à la Villa Miseria Ventiuno, c'est-à-dire le plus grand bidonville de Buenos Aires où il allait souvent. accompagné par des prêtres avec lesquels il travaillait. Ce qui était très impressionnant dans ce bidonville, les prêtres m'emmenaient dans des maisons. Ils disaient, choisissez ces petites maisons colorées. Ah ben, je dis, celle-là est turquoise, elle me plaît assez. On entrait et il y avait une ancienne prostituée avec plein d'enfants. Et il y avait un portrait, une photo du pape avec un clou rouillé. Et le pape avait baptisé les enfants. Mmh. Et ça, je trouve ça formidable. C'est-à-dire que pour lui, être un archevêque de Buenos Aires, c'était pas de baptiser les enfants des latifondistes et du fils d'ambassadeur de France, par exemple. C'était d'être sur le terrain. Et il allait à la Villa Miseria, cet immense bidonville, et il était très ami toujours avec le directeur du port de Buenos Aires, parce que ça lui permettait d'avoir des autorisations spéciales pour faire entrer les gens, justement, qu'on ferme un peu les yeux, si la famille s'était un peu droguée, enfin, il négociait ça, c'était très important.
Mais ce pape, aujourd'hui, il vit au Vatican, il vit de façon très entourée, c'est l'homme très certainement le plus célèbre du monde, connu absolument partout. Est-ce qu'il est encore dans cette réalité-là? Ou est-ce que lorsque l'on vit au Vatican et qu'on devient pape, on n'est pas déconnecté du monde réel?
Pas du tout. Et moi, il y a une chose qui m'avait absolument impressionnée. On était allé, quand on était en Pologne, on était à Cracovie et on avait accompagné, on était un certain nombre de journalistes, parce qu'il y a toujours des poules, comme vous savez. On était quatre, on l'avait accompagné dans l'hôpital de la Dernière Chance, qui était un hôpital pour enfants qui avait un cancer, et on voyait des enfants qui avaient 4 ans, 5 ans, qui avaient des perfusions, enfin ces choses horribles, qui n'avaient pas de cheveux, enfin des choses absolument bouleversantes, et le pape pleurait. Il avait les larmes aux yeux, et je me suis dit, ben, au fond c'est formidable parce qu'il ne se cache pas, enfin on était évidemment bouleversés parce qu'il s'agissait d'enfants, mais il était pareil, il était comme les parents qui étaient là, et ça, j'ai trouvé que c'est une chose extraordinaire. Il était un être humain et il avait du mal à surmonter la souffrance des enfants.
Est-ce que c'est un pape progressiste sur certaines questions?
Oui, bien sûr que c'est un pape progressiste, évidemment. Et puis, il faut toujours aller. Et puis, c'est là où je reviens sur le fait qu'il est jésuite. Donc, c'est un ordre quand même où on s'occupe des migrants depuis toujours. On a des centres pour les réfugiés dans le monde entier.
Et par rapport à l'homosexualité, par exemple, il a évolué.
Et par rapport à l'homosexualité, il a quand même dit une chose. La première fois qu'on a fait le premier vol qu'on a fait avec lui, le premier voyage, c'était pour les JMJ au Brésil. Au fond, on ne le connaissait pas tellement. Et là, au retour dans l'avion, il y a un journaliste qui lui a posé une question sur l'homosexualité et il lui a dit « Qui suis-je pour juger ?» Et moi, j'ai entendu ça et je me suis dit « ça, avec ce pape-là, ça va être une autre histoire. » Et moi, ce jour-là, j'ai eu une histoire absolument incroyable avec lui. On était à l'aéroport et le rouleau des bagages m'est tombé sur le pied. J'avais le pied en sang. Et un ami journaliste assez sympa me dit, bon, bah, écoute, tu vas monter dans l'avion, tu vas juste enlever ta chaussure et tu seras en chaussettes. Donc, je monte dans l'avion, j'avais une chaussure, l'autre pas. Et je suis sélectionné pour poser une question parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes pour ce voyage et qu'en plus je parle italien. Et donc j'arrive devant le pape, j'avais une chaussure et l'autre je l'avais pas, c'était quand même un peu gênant. Je ne lui explique pas, je marmonne vaguement quelque chose et je lui pose une question. Je lui dis, très Saint-Père, comment on fait quand on est pape et qu'on a fait le quatrième vœu, qui est celui, et quand on est jésuite, quand le pape est jésuite, qui est celui d'obéir au pape. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, ah oui, non, ça, c'est vrai, j'ai jamais vraiment pensé à ça. Il se penche vers Padre Lombardi, qui était directeur de la communication, qui était jésuite, et lui dit, celle-là, elle est plus maligne que les autres, tu me la mets de côté. Et il m'a mis en couverture d'un de ses livres, je vous montrerai.
Ah bah très bien. Et vous, on vous a mise de côté quand même.
On m'a mis.
Le pape a dit, vous me mettez Caroline de côté.
Oui,
ah, tout le monde n'a pas vécu ça. Non. On se retrouve dans un instant. Moi, je voudrais savoir où il vit le pape. Comment sont ses appartements? Est-ce que comme les présidents, il refait la déco? Les présidents, ils arrivent à l'Élysée, ils refont faire la déco. Est-ce qu'un pape fait la même chose? Ce sera dans un instant avec vous sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Toujours en compagnie de Caroline. Caroline Pigozzi, c'est comme ça que vous appelez le pape François?
Il m'appelle Caroline, oui. Oh, il italianise mon nom.
Où est-ce qu'il vit le pape? Vous êtes déjà allé chez lui ou pas?
Je suis allé là où il habite, mais pas à son étage quand même.
Ah,
il
bah,
vit
je au, sais pas. Alors,
au deuxième étage de Santa Marta, qui est un hôtel pour les cardinaux, qui a été bâti, enfin commandé par Jean-Paul II sur un ancien couvent. Ce sont des petits appartements.
Mais c'est là que vivaient ses prédécesseurs
non,
aussi ?
Non, pas du tout. Ils vivaient dans le palais pontifical. Et ils avaient une famille pontificale. Ils avaient des religieuses qui vivaient avec eux, leurs secrétaires. Enfin, on appelle ça la famille pontificale. Ils dînaient, déjeunaient avec eux. Et ils ne parlaient pas tout seul à son assiette. Ce pape-là, il a complètement changé les règles. Il vit à Santa Marta, donc ce bâtiment fonctionnel, pas très joli, mais opérationnel, où il y a une chapelle moderne qui est particulièrement laide. Il a deux salons en bas qui ne sont pas terribles, mais il a fait mettre un tableau avec la Vierge qui défait les nœuds. C'est un symbole important pour lui. Et d'autre part, la Vierge du silence. Alors, quand on arrive, on voit une Vierge avec le... Ah oui. Pas de commérage. Quand on entre dans la pièce, pas de commérage.
Ça, c'est
il
bien,
se
ça.
Dit ici... Il a fait mettre ça au bas des ascenseurs du Vatican aussi. Les gens qui vont à la secrétaire d'État quand... ou qui vont le voir quand il y a des choses, des fonctions, enfin des... Ouais. Des organisations de choses officielles, des visites officielles, en bas des ascenseurs, il y a la Vierge du silence. C'est-à-dire, vous taisez.
Mais alors lui, c'est un pape qui a voulu vivre différemment de ses prédécesseurs. Il aurait pu se dire, bah, ça y est, je suis pape,
il a un appartement, il y a une chambre, deux bureaux, une salle de bain, un petit appartement.
Mais c'est beau, ce sont un peu les heures du Vatican ou c'est ostentatoire ?
C'est fonctionnel, un peu déprimant, dans les marronnasses foncées, rien n'est beau. C'est fonctionnel, ça n'a aucun intérêt.
Mais il reçoit chez lui, le pape ?
Non, il reçoit au rez-de-chaussée, dans les deux salons, là où il y a la Vierge qui défait les nœuds, ou alors il y a des cérémonies officielles. Et ça, c'est quand il reçoit un chef d'État, c'est dans le palais pontifical.
Et là, dans cet appartement-là, il vit seul ?
Il a aussi
une famille ?
Non seulement il n'a pas de famille, mais quand on lui a proposé des religieuses pour s'occuper de lui, il a dit non, les religieuses, elles ont une mine de piment au vinaigre. Ça les a...
Ça veut dire quoi, une mine de piment au vinaigre ?
Qu'elles font toujours la gueule, en gros. Donc, il n'a pas... Donc, il n'y a pas de religieuse.
Mais il n'y a personne pour s'occuper de lui.
Aussi, il y a un peu de personnel qu'il ne voit jamais. Il y a des femmes de ménage, il y a des gens qui ne voient pas. Et il cire ses chaussures lui-même. Alors là, M. Gamarelli, qui habille les papes, enfin la famille qui habille les papes depuis toujours, hein, va le voir au début du pontificat, avec les soutanes, parce qu'il fallait que les soutanes soient de la bonne taille. Et au bas de la soutane, il y avait du noir. Alors, il dit au pape, très Saint-Père, si je peux me permettre, vous devriez dire à la personne qui cire vos chaussures de ne pas mettre du cirage noir, mais parce que, vous voyez, on le voit au bas de la soutane, parce que lui, il a changé de chaussures, les autres papes, ils avaient des chaussures rouges, donc il y avait du cirage incolore. Tandis que lui, ayant des chaussures noires, c'était du cirage noir. Et à ce moment-là, il dit, oui, non, mais le problème, c'est que c'est moi qui cire mes chaussures.
Donc c'est un pape, finalement, qui...
Il fait son café lui-même à 5h du matin.
Alors, écoutez, c'est une question que je posais tout à l'heure, je me disais, mais comment se réveille un pape ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, parce qu'on peut l'imaginer aussi, et ça a été, on l'a vu dans des séries, on peut imaginer un valet qui frappe discrètement, qui va ouvrir les fenêtres, qui va aller voir sa sainteté en lui demandant si elle a bien dormi, et tout à coup arrive une bonne sœur avec un plateau et un petit déjeuner. C'est pas comme ça chez le pape ?
Non, alors lui, il se réveille à 5h, ou 5h15, il se fait son café lui-même, il a une espèce de kitchenette, et puis après ça, bon, toilette, enfin tout ça, il se met à sa table de travail, et il travaille jusqu'à 6h30 tout seul. Et à 6h30 arrive son premier secrétaire qui récupère les documents à taper, les choses, les mails à envoyer, lui descend, et vers 7h, il y a la messe. Donc, il a, dans sa chapelle, il y a des invités. Moi, j'y suis allé 3 fois. C'est très impressionnant. Et après ça, il choisit des invités qu'il invite pour son petit déjeuner.
Okay.
Et alors, un jour, il allait à la messe. Et puis, il sort de la messe et il y avait un jeune homme qui était là, qui travaillait genre pour DHL, enfin bon, et qui apportait du coup, à 7h du matin, il venait apporter un document, et le pape lui dit, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, très Saint-Père, je suis venu apporter des documents. Il dit, mais là, qu'est-ce que vous faites ? Ben, je repars. Il dit, venez prendre le petit déjeuner avec moi.
Donc, ça veut dire qu'il reçoit, il a de la spontanéité. Mais
il a une vraie... Il veut pas qu'on lui raconte l'histoire. Il veut savoir ce qui se passe en ville.
Okay.
Il veut pas de filtre.
Ok, mais quand il reçoit chez lui, est-ce que le pape peut inviter des potes à dîner ? Est-ce qu'il a des amis, le pape ?
Oui, il a des amis, mais les amis, c'est surtout des amis argentins, c'est des amis d'autrefois. Et alors, il était tellement méfiant au début du pontificat pour son courrier qu'il avait un ami qui s'appelait Aldo, qui maintenant est à la retraite, qui était un pilote de l'Alitalia qui faisait la liaison Paris-Buenos Aires, il lui donnait son courrier personnel pour qu'il l'envoie directement à Buenos Aires, pour que le courrier ne passe pas par tous les filtres du Vatican. Oui, oui, il est méfiant, très méfiant.
Mais il est méfiant, vous parlez des filtres du Vatican, c'est-à-dire que la vie du pape n'a aucun secret finalement pour le Vatican ?
C'est-à-dire qu'il n'a pas envie, quand il envoie une lettre à un ami ou à une vieille enseignante ou je ne sais pas quoi, il n'a pas envie qu'il soit inscrit, qu'il y ait une traçabilité, comme on dit aujourd'hui.
D'accord, ok. Il y a donc certaines stars aussi qu'il visite, qui lui demandent audience, de Katy Perry à Ronaldinho, en passant par DiCaprio ou Gad Elmaleh. Il reste en contact avec les stars. Il y a des people dans l'environnement du pape.
C'est-à-dire qu'il accepte quand ça a un sens. Si vous voulez, s'il reçoit un grand acteur, il faut que l'acteur soit concerné par un sujet ou un autre humanitaire, et à ce moment-là, que ça puisse servir la cause humanitaire.
Mais c'est pas un pape people.
Ah, mais pas du tout, il a horreur de ça. Mais en revanche, quand on était allé en Arménie, que je lui avais donné des disques de Aznavour, il était enchanté et ça lui plaisait. Il m'a dit, ah, il est mort Aznavour, c'est dommage. Vous voyez,
je l'aurais bien rencontré.
Oui, enfin, il n'est pas allé jusqu'à me dire ça, mais... Oui, ça voulait dire ça.
Justement, la musique, on va en parler dans un instant, parce que figurez-vous que le pape, un jour, a été surpris à Rome chez un disquaire. Donc, j'ai des questions à vous poser là-dessus.
Ah oui, non, ça, il a été chez un disquaire, mais non, il va aussi acheter ses lunettes à côté de la Piazza del Popolo.
Donc, on peut croiser le pape, comme ça, dans la rue. Bon, vous nous racontez ça dans un instant, à tout de suite sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Toujours en compagnie de Caroline Pigodi. Mais Caroline, vous avez une vie incroyable, en fait, de vaticaniste. Vous voyez des choses hallucinantes. Parce que les papes sont auréolés quelque part de mystère. On a l'impression qu'ils sont inaccessibles. Mais vous arrivez à les fréquenter, à vous distinguer parmi une foule de journalistes, à exister pour eux. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est fou quand même, non?
Écoutez, ma chance, je crois que c'est parce que j'étais une des premières femmes à entrer au Vatican. Oui. Vous savez, à l'époque, il y avait une journaliste mexicaine, il y avait très peu de femmes. Donc, c'est ça qui a joué la différence. Quand Jean-Paul II est arrivé, les femmes dans l'univers des papes, c'était une chose, on ne les voyait pas. Enfin, c'était les souris grises. Et donc, j'ai pris un peu une longueur d'avance. Et puis, j'ai quand même eu la chance de travailler 32 ans dans un hebdomadaire, qui était Paris Match, où on faisait du terrain. J'ai jamais imaginé faire ça de Paris. J'étais toujours sur place. Et puis...
Mais vous vous êtes éclaté.
Ah, mais j'ai adoré ça, évidemment. J'étais très fière de faire ça.
C'est le hasard qui vous a amené sur ce terrain, comme ça, du vaticanisme ou
Non, c'est pas le hasard. C'est que j'étais à l'école chez les Dominicaines à Rome, qu'on avait un père qui s'appelait le père Poupard, qui est devenu le cardinal Poupard, qu'il nous parlait, quand on avait les cours d'instruction religieuse du Vatican, parce qu'il travaillait à la secrétaire d'État, et qu'il avait demandé qu'une élève qui passe ses week-ends là, et moi je sortais très peu parce que ma famille habitait la France, puisse lire des livres et faire des fiches de lecture. Donc je faisais des fiches de lecture parce que le pape Paul VI recevait des livres en français, il gardait les livres intéressants, et quand c'était l'histoire de l'asperge en 12 leçons, il me filet pour que je fasse une note de lecture. Donc, je faisais des notes de lecture sur des sujets qui étaient tout à fait secondaires, je les lui donnais, il les remettait à la secrétaire d'État parce que chaque livre qui est envoyé à un pape, il y a une lettre de remerciement.
Okay. Donc, je faisais des... Si j'envoie un bouquin au pape, je vais avoir une lettre de remerciement?
Oui, vous recevrez un remerciement. Donc, j'ai commencé le dimanche, j'allais lui rapporter mes fiches de lecture, le téléphone sonnait, et donc je disais, mon père voulait que je sorte, il disait, non, vous pouvez rester, mettez vous, et j'entendais parler avec des gens du Vatican, parce qu'il avait toujours des copains du Vatican qui lui racontaient des trucs. Donc, je suis entré dans cet univers, j'avais 15 ans, en fait. J'ai commencé à... Et après ça, on avait un cardinal qui s'appelait le cardinal Tisserand, qui avait fait une très belle guerre, qui était un ami du général de Gaulle, et qui venait célébrer la messe à l'époque. À l'école régulièrement parce qu'il était le cardinal de Porto Santa Rufina qui était la région où se trouvait ecclésiale où se trouvait le cardinal et donc il ressemblait à Mazarin et c'était extraordinaire et ça m'a donné le goût de ça. Et puis c'était un défi d'entrer au Vatican. C'est ça aussi, c'est que toutes les places étaient commençaient à être occupées par des femmes. Il y avait des femmes en politique, il y avait très bonnes journalistes, il y avait Catherine Ney, il y avait Michel Cotta. Au Vatican, il n'y avait pas de femmes.
Et voilà, et vous êtes arrivé.
Comme une souris grise.
Exactement, la souris que maintenant les papes connaissent, et vous, vous les avez bien connus aussi. Et donc, on parle de François ce soir. Et François, on dit que c'est un peu le pape le plus cool de l'histoire. Il aurait même été surpris à Rome chez un disquaire, Pépouze, en train de s'acheter un disque de tango. Il danse le tango déjà, hein ?
Ah, il aime beaucoup l'argent, tango.
Hein, mais il danse encore ?
Non, ça,
enfin bon, non, il a 88 ans,
donc
voilà,
je crois
on va parler de sa santé
mais
après.
Il était allé chez ce disquaire et il est tombé sur un journaliste qui était en train de s'acheter des disques.
Mais c'est il était ça, tout seul, le pape ? Non, il ne se balade pas tout seul,
non,
quand même.
Non, il est dans une petite Fiat et il y a une sécurité rapprochée très discrète. Et, oui, il n'y a pas... Et une voiture suiveuse, évidemment, pour des questions de sécurité. Mais tout ça, ça se passe... Je vous dis, quand il est allé, moi, il n'y a pas longtemps, quand on est rentré du dernier voyage qu'on a fait... On est allé avec lui assez loin, eh bien, en Mongolie. Et en revenant, je suis parti à peu près par le même chemin. Toute la route était bloquée parce qu'il allait à Santa Maria Maggiore déposer ses petites fleurs. Alors j'ai voulu aller voir comment ça se passait. On a dit non, signore, tutto chiuso. Et oui, il circule.
Donc il circule, il essaye de vivre.
Il a raison, il va chez son opticien. Il n'y a rien de plus ennuyeux que de faire venir un opticien, vous comprenez, là, au moins il essaye ses lunettes sur place, c'est plus facile. Il est beaucoup plus pratique. Et puis c'est un pape qui vivait dans le métro quand il était à Buenos Aires. Ça
oui,
lui donne l'impression
qu'il n'était pas pape.
Non, mais il a l'impression de respirer.
Oui, je comprends.
Et alors quand il déjeune,
c'est
une autre chose qui est amusante, c'est qu'il déjeune dans la salle à manger donc de Santa Marta, il dîne chez lui dans son appartement, mais il déjeune là. La nourriture est très moyenne. Et donc, quand il déjeune jamais seul. Par charité, je ne dirais pas qu'il prépare les plats, parce que la charité chrétienne, quand même, il y a une petite contagion. Et il déjeune jamais seul. Il déjeune avec son secrétaire et il y a souvent un invité. Donc, les gens mangent la même chose que lui, pour pas qu'ils soient empoisonnés. Et lui dit à dernière minute, je mangerai des pâtes. Donc, tout le monde prend la même chose. Comme ça, si on en empoisonne un, on en empoisonne trois. Comme il est gentil avec ses invités, il parle, son plat refroidit, il prend son plat et là, il va au micro-ondes. Il fait la queue au micro-ondes. Et alors là, il y a tout à coup une espèce de marée humaine qui va vers le micro-ondes parce que tout le monde veut saluer le pape. Alors, il s'approche, il y a 10 personnes derrière ou 15, tout le monde a son plat réchauffé. Et c'est assez amusant. Et donc, il réchauffe son plat, il va se rasseoir.
Mais c'est tellement loin de ce qu'on imagine. On imagine le Vatican dans une forme de luxe.
Il a cassé complètement tout ça.
Parce que ses prédécesseurs, eux...
Mais d'ailleurs, il a non seulement cassé, c'est que l'été, il ne va pas à Castel Gandolfo, qui est un endroit merveilleux, extraordinaire.
C'est la résidence d'été des papes.
La résidence d'été des papes, sur une colline à 37 km de Rome. Il n'y va pas. Alors, les gens sont indignés. Mais il faut comprendre que pour lui, l'été, le mois de juillet, à Buenos Aires, en Argentine, c'est pas les vacances. Vous voyez, c'est donc dans sa tête, il est resté quand même très argentin.
Mais il prend des vacances, le pape ?
Très peu, non, ça n'intéresse pas.
D'accord.
Et il a été élu quand même à 77 ans. Il considère qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il manquerait plus qu'il prenne des vacances. Ça n'intéresse pas du tout.
Il fait du sport ou il faisait du sport ?
Non, pas vraiment.
Ok, d'accord.
Non, je crois pas.
Le pape pas. N'a pas une salle de sport, quoi.
Non, pas du tout. Il ne fait pas des poses haltères au Vatican.
D'accord, ok. Un an après son arrivée au Vatican, Harley Davidson lui a offert une moto pour les 110 ans de la marque. Vous avez entendu parler de cette histoire ou pas ?
Il a été couvert de cadeaux, mais le problème...
Mais alors, qu'est-ce qu'il en fait ? Une moto pour le pape ?
Non, mais il a reçu une Fiat, il a reçu des voitures, il était couvert de cadeaux. Alors, à l'époque, pendant de longues années, c'était formidable parce qu'il y avait une tombola. Alors, on prenait des billets de tombola et on pouvait rêver, justement, d'avoir la Harley Davidson.
Du pape.
Oui. Et depuis... 3 ans, je crois qu'il n'y a plus de tombola. Mais on prenait tout le monde pouvait prendre des billets pour la tombola. C'était très amusant parce que vous pouviez rêver d'avoir...
Et ça partait après aux bonnes œuvres, c'est ça ? Parce que cette Harley Davidson a été revendue ensuite aux enchères.
Aux œuvres du Vatican, oui, ça partait après ça, aux œuvres choisies, absolument, selon celles que choisissait le pape.
On va se retrouver, si vous le voulez bien. Il donne une messe, vous disiez, alors le matin,
il va dans sa
chapelle qui n'est pas jolie.
Oui. La chapelle de Santa Marta, oui.
Ok. Et sur la place Saint-Pierre également. Et là,
alors,
ça,
non,
c'est un grand moment.
La place Saint-Pierre, il y a l'audience générale du mercredi matin.
Hebdomadaire.
Qui est hebdomadaire. où tout le monde peut aller. Il suffit de prendre un ticket. Et, enfin, on est contrôlé. On contrôle évidemment
ça,
votre
sac. Ça, c'est un grand moment. Moi, je l'ai vécu une fois. C'est formidable. C'est impressionnant. On va le raconter à nos auditeurs. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Écoutez, on est à Rome. C'était il y a un peu plus d'une semaine.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
C'était la messe des rameaux sur la place Saint-Pierre, Caroline Pigozzi. Le pape, vous le disiez, donne une audience hebdomadaire sur la place Saint-Pierre.
Ça, c'est une messe, là, c'est la messe, c'est autre chose. Oui. Et mais il a une bonne voix.
Je trouve
qu'il a une bonne voix.
Parler de sa santé après.
Et tous les mercredis, il y a l'audience générale du mercredi, évidemment, qui est ouverte à tout le monde. On arrive quand il
donc
fait
place Saint-Pierre.
Quand il fait beau, c'est place Saint-Pierre. Quand il fait moins beau, c'est Aula Paolo VI, c'est à l'intérieur du Vatican.
D'accord.
Salle Paul VI. Et le pape fait une catéchèse. Mmh. Après ça,
quoi faire une catéchèse?
Il parle, c'est une instruction religieuse, je dirais. Il parle du sujet qu'il a choisi en rapport avec des textes de l'Évangile ou pas, d'ailleurs, c'est libre. C'est selon son inspiration. Et après ça, il y a la prima fila, c'est-à-dire qu'après ça, quand c'est dans l'Aula Paolo VI, les gens viennent le saluer, il y a des sélections, il y a une centaine de personnes qui viennent le saluer. Le tout est la photo, la technique du photographe qui fait, vous savez, photo rapprochée. Bon. Et puis, autrement, une centaine de personnes, ça fait des gens de tous les pays, des grands patrons qui pensent comme ça. C'est l'illusion de dire qu'ils ont été reçus par le pape. En fait, c'est une question technique de photo. Après ça, ils vont acheter la photo au service photographique de Osservatore Romano, juste derrière. Ils ont les photos dans l'heure, donc tout ça se fait très bien.
Je croirais dans un parc d'attractions, dis donc.
Oui, mais c'est un peu ça.
Donc c'est vrai.
Pour la photo. Et puis, quand c'est place Saint-Pierre...
Hyper impressionnant.
Parce que la place est une des plus belles places du monde. La lumière est toujours extraordinaire. Et alors là, il est sur la place.
Il y a la population qui vient.
Et il circule en papa mobile. Et tout à coup, il y a les gens qui sont avec lui, la garde suisse et ceux qui conduisent la voiture. Et puis surtout, la garde suisse qui est avec lui. Ils choisissent des enfants. Et maintenant, il fait attention parce qu'il y a toute l'histoire. Et il choisit ses enfants et les enfants viennent le saluer. Où il les embrasse, enfin. Et quand il est allé à Marseille, je travaillais pour TF1, je leur avais dit « Faites attention, il faut mettre quelqu'un en bas parce que c'est très impressionnant. Il faut être sur le terrain, il faut qu'il y ait des journalistes parce que quand il prend les enfants dans les bras, il y a quelque chose de formidable. » Et c'est un moment très émouvant.
C'était les 22 et 23 septembre 2023 à Marseille.
Bonjour Marseille. Bonjour la France.
Le pape a célébré une grand-messe donc au stade Vélodrome de Marseille. L'occasion pour moi d'apprendre aussi qu'il est fan de foot.
Oui, il connaît bien évidemment tout. C'est un sujet en Argentine, le club de foot.
Il parle combien de langues là? Parce qu'on l'entend parler français. Bonjour Marseille.
Non, il parle l'espagnol. Un peu le français, mieux qu'il le dit, mais comme il est orgueilleux, il n'aime pas faire des fautes, il ne le parle pas beaucoup. L'italien, très bien. Piémontais, il a comme ça des intonations piémontaises. Et un jour, il m'avait téléphoné parce que je miaulais pour l'interviewer, il n'était pas décidé.
Et alors, si vous miaulez, évidemment.
Et alors, je lui dis, très Saint-Père, on va la faire cette interview ou pas? Il me répond, vedremo. Ça veut dire, on verra. Et alors, je lui dis, ah non, mais ça, c'est pas sûr, parce que mon père, il était piémontais. Quand on disait vedremo, c'était pas gagné. Il me dit, mais on va y arriver.
Ouais. Et vous l'avez eu alors ou pas?
Oui, je l'ai eu.
Bah, évidemment. La première interview. Quand il est venu à Marseille, ça n'était pas une visite d'État. Et si Benoît XVI a honoré deux fois la France en voyage officiel, le pape François, il a toujours décliné. Vous savez pourquoi?
Écoutez, une fois dans l'avion, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, très Saint-Père, vous êtes allé à Strasbourg, vous n'êtes même pas arrêté à la cathédrale, c'est quand même pas très gentil, France viennait de l'Église. Il m'a dit, m'embête pas avec ces vieux trucs, moi, il n'y a que l'avenir qui m'intéresse.
Ouais.
C'est pas un sujet.
Mais même pour parler de l'avenir, il n'a jamais fait de visite officielle à Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron est venu lui rendre visite.
Non, mais il aime bien Emmanuel Macron. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit très Saint-Père.
Pareil, il y a École de Jésuites aussi.
Pareil. ancien élève des jésuites. Et puis, non, il y a un autre élément auquel les gens ne pensent pas, c'est qu'un pape, vu son âge et vu l'âge auquel on arrive généralement au sommet du pouvoir, les chefs d'État, ils ont rarement l'âge d'Emmanuel Macron, ils ont 60 ans. Ils ont... Et alors, c'est des conversations de vieux, finalement. Et lui, il est ravi d'avoir un jeune président.
Mais alors, justement, pourquoi il ne vient pas?
Parce que Emmanuel Macron, c'est une chose, la France en est une autre. Il se dit, j'ai été élu à 77 ans, je répète, et j'ai pas beaucoup de temps dans la vie, pense-t-il, il sait pas, et il veut aller dans des pays en souffrance. Et je me souviens que quand Notre-Dame a brûlé, il y a des personnes un peu haut placées qui m'ont téléphoné en me demandant, est-ce que vous croyez qu'il va venir? J'ai dit, non, il viendra pas. Il me dit, mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes défaitiste. Je dis, non, écoutez, il va pas dans des pays où des églises ont brûlé, où il y a eu des attentats, tout crée un précédent quand on est pape, donc il ne viendra pas. Il a pas besoin d'accompagner le bonheur, il accompagne le malheur, ce pape. Et donc, bon, si un pays va à ses yeux bien, s'il n'y a pas de problème particulier, s'il n'y a pas de conflit particulier, il y a mieux à faire, pense-t-il.
Avant de prendre des nouvelles de la santé du pape François et de parler de la suite avec vous, Caroline Pigozzi, est-ce que le pape François, il a de l'argent sur lui? Enfin, je veux dire, est-ce que quand on est pape, on a quelques euros pour s'acheter un sandwich ou pour donner à un nécessiteux dans la rue?
Non, mais... non, il n'a jamais d'argent sur lui et il a gardé son passeport argentin, vous voyez?
Oui, parce qu'il pourrait avoir un passeport
du Vatican.
Du Vatican.
Il a voulu garder son passeport argentin. Il est viscéralement argentin, fils d'émigrés, et ça fait partie de son histoire. Il n'était pas question qu'il y renonce.
Et donc, ça fait combien de temps qu'il n'a pas payé un truc depuis 10 ans, en fait?
Oui, c'est à peu près ça, oui, depuis qu'il est élu. Oui, mais en même temps, il a très peu de besoins. Vous voyez, il va pas aller s'acheter une ceinture Hermès ou je sais pas quoi pour mettre sous sa soutane. Non, vous voyez, il a pas.
Est-ce qu'il est heureux?
Oui.
C'est heureux,
enfin,
un pape.
C'est-à-dire deux choses. Il est très malheureux de pas pouvoir faire dans des tas de domaines. Je veux dire, le monde est une tragédie pour lui, les guerres et tout ça, et il connaît ses limites et il sait qu'il y a des tas de choses qu'il peut pas faire et il a les larmes aux yeux sur plein de sujets. Mais évidemment qu'il est heureux d'être pape, pas du tout par vanité.
Justement,
c'est pas ça, mais il est à un poste ou quand même une situation extraordinaire où, oui, bien sûr, il est heureux d'être là où il est.
C'est le moins vaniteux de ceux que vous avez fréquentés.
Benoît XVI était très humble aussi.
Oui, c'est vrai. On avait fait une émission sur Benoît XVI, on vous invite à l'écouter en replay.
Il était d'une grande humilité et il avait cette chose qu'on voyait pas très bien, mais il me l'avait dit un jour quand il était cardinal, parce que je l'ai pas interviewé. Il disait, vous savez pas ce que c'est que d'avoir vécu dans un pays divisé. Ouais. Et c'est une chose très très douloureuse. On met une vie pour s'en remettre.
Allemand, hein. D'origine allemande.
Comment il va? Enfin, bavarois. Ouais.
Comment il va, le pape François? On a noté plusieurs problèmes de santé. On a parlé de problèmes pulmonaires. On a parlé effectivement aussi de problèmes du genou que vous avez évoqué tout à l'heure. Il aurait de plus en plus de mal à se déplacer. Et je le disais en préparant cette émission, vous voyez, être président de la République, ça donne un coup de vieux. Tous les présidents de la République qu'on a vus se sont pris un vrai coup de vieux pendant leur mandat. Là, en l'occurrence, un pape, j'avais l'impression que ça vieillissait très vite. Mais ce que vous avez souligné aussi, c'est que François, quand il est arrivé au Vatican, il avait 77 ans.
Il avait 77 ans, c'est quand même un âge où on lit plus Tintin. C'est de 7 à 77
mais
ans,
oui,
je crois.
Il n'avait même plus le droit de lire Tintin quand il est arrivé au Vatican. Mais par exemple, Benoît XVI, lui, il a préféré se retirer. Est-ce qu'on a le sentiment et on dit que lui, il ira au bout de sa mission?
Je crois que c'est une histoire tout à fait différente. C'est-à-dire que Benoît XVI, quand les documents sont sortis dans la presse, des documents privés et tout ça, il a été pris d'une sorte de dépression. Il s'est dit, est-ce qu'il y a un micro dans ma brosse à dents? Il n'arrivait plus.
Oui,
il n'avait plus confiance en son entourage. Il n'y arrivait plus. Donc, tout à coup... et puis, sa sœur était morte quelques années avant. Et puis, enfin, je veux dire, il y a plein de choses douloureuses qui ne surmontaient pas. Ce pape, il a un caractère très fort. Selon moi, il ne se retirera jamais. Sauf
c'est ce que l'on dit. Ouais.
Je ne crois pas du tout. Il a le sens du pouvoir et puis il a envie de faire des choses encore. Il fera jusqu'au dernier jour.
Ouais.
Et alors, quant à sa santé, je crois qu'il est très difficile à soigner parce qu'il est autoritaire, chacun le sait, et qu'il a des idées précises. Et il raconte d'ailleurs dans son livre... Pape François, là, le dernier livre, il raconte qu'en Argentine, quand il avait été malade, il avait été soigné, qu'il avait sauvé, c'était un infirmier. Et à Rome, évidemment, au Vatican, il a un médecin. Et comme il est très difficile parce qu'il a des idées sur tout, et notamment sur la médecine, il explique à son médecin ce qu'il doit faire. Le médecin, finalement, s'est retiré parce qu'il dit, s'il arrive quelque chose, je veux pas, après ça, qu'on dise que c'est moi qui l'ai pas soigné. Et en fait, il suit Strapetti, qui est son infirmier, et il trouve que ça va très bien comme ça. Et il croit plus à son destin dans les mains de Dieu qu'au fait de devoir se soigner. Alors, je pense qu'évidemment, s'il avait un cancer, ouais, il ferait de la chimio. Mais si vous voulez, pour le reste, sa vie entre les mains de Dieu.
Et voir un pape vieillir, lorsque l'on est journaliste comme vous, vaticaniste, il y a quelque chose, d'ailleurs même pour les fidèles, il y a quelque chose de bouleversant aussi. Oui. Et on peut parfois remettre en cause la légitimité à régner sur les fidèles. Ouais. Jusqu'à la fin.
C'est douloureux, parce que là, on le voit monter dans l'avion et on voit qu'il souffre. Et puis, avec nous, au début, il y avait quand même, malgré son âge, une vitalité incroyable. Donc, nous, on l'aime bien, forcément. C'est un pasteur. Et donc, c'est douloureux. Et ben, on aime mieux pas y penser. Et donc, moi, j'y pense jamais au jour de sa mort. Mais forcément. Mais
si vous voulez. On y pense au Vatican, par exemple.
Ça se prépare déjà. On y pense parce qu'il y a de la stratégie.
Alors, justement, est-ce que là, c'est en train de se mettre en place?
Évidemment que tout le monde y pense. Mais bon, quand on est un laïc et qu'on est c'est hors sujet. Enfin, vous voyez, moi, j'y pense pas. Et je fais mon métier de journaliste et je mets la tête sous l'oreiller en me disant qu'il va vivre très longtemps et que je peux voir les choses. Je suis un peu subjective.
Vous en parlez avec une certaine affection, moi, je trouve, le pape François. C'est un peu votre préféré ou pas? Si vous êtes sa préférée, est-ce que lui, c'est un peu votre préféré?
D'abord, ça joue beaucoup, soyons honnêtes. Mmh. Quand un pape vous dit que vous êtes sa journaliste préférée, qu'il vous met sur la couverture d'un de ses livres aux éditions Vatican, on est subjectif. Et par ailleurs, c'est sans doute celui que j'ai le plus approché, que j'ai le plus suivi.
Le plus accessible.
Oui, absolument.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Caroline Pigozzi. Il faudra revenir nous voir, parce que comme à chaque fois, c'est passionnant. Et puis c'est un autre pan, finalement, du Vatican que vous soulevez à chaque fois que vous venez. Vos livres, je voudrais les conseiller. Ainsi fait-il aux éditions Plomb. Chez le même éditeur, vous avez signé la préface du livre Pape François, Parole en liberté. Et puis, alors ça va devenir ma nouvelle Bible. Alors dites donc, il me faut une valise pour le porter. Pourquoi eux, ils ont fait notre époque, interview et rencontre, c'est chez Plomb avec Paris Match. Alors là, pour le coup, il y a Brigitte Bardot, François Hollande, tous ceux que vous avez rencontrés en fait.
Oui, et trois papes.
En tant que journaliste.
Et trois papes. Et j'insiste sur une chose, pour des gens qui aiment les animaux, ce livre, j'ai écrit avec mon chien, parce que j'écris la nuit, et donc le chien est toujours remercié.
Il s'appelle d'ailleurs, comment votre chien?
Daïla, c'est une chienne, c'est un teckel. Mais elle a reçu un nombre de bénédictions incroyable parce qu'à chaque fois que j'ai un prélat qui vient dîner à la maison, je lui dis, vous dites le bénédicité. Il dit oui, puis je dis par la même occasion, vous bénissez mon chien. Le représentant du pape en France, le nonce apostolique Paris, a béni mon chien. Il est couvert de bénédictions.
Bon, vous saluerez une caresse à votre chien. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi. À bientôt sur RTL. Merci à tous mes enfants de cœur, l'équipe de Jour J. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Céline Bonnet, Quentin Zoulin, Bastien Robin et Jonathan Griveaux aux manettes aujourd'hui. Très bonne soirée sur RTL. Je vous donne rendez-vous demain. Merci pour votre fidélité.
RTL, Jour J. Avec Flavie Flamand.